Santé.
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 C'est bon pour la santé.
Faire du sport.
C'est bon pour la santé.
Les carottes.
C'est bon pour la santé.
Boire. Rire.
Bien dormir.
Bouger. Faire de l'exercice.
C'est bon pour la santé.
Puis on vieillit bien à part de ça.
Manger des fruits.
Mangiamo le spaghetti.
Une ou deux gorgées d'eau toutes les heures.
C'est meilleur pour la santé, oui.
Bon mardi après-midi, j'espère que vous allez bien. C'est Marianne Paquette qui est là, je vous accompagne au cours des 30 prochaines minutes à travers cette émission de C'est bon pour la santé sur Canal M. Les émotions, tout un défi, hein, même pour nous les adultes, que ce soit apprendre à les reconnaître, les nommer, les gérer, les canaliser et les exprimer de façon adéquate. Imaginez pour les enfants à quel point ça peut être exigeant. Et peut-être même aussi pour les parents qui tentent de les accompagner, de les guider dans cet apprentissage-là. Il y a Diane Borgia, elle, criminologue, psychothérapeute, clinicienne, formatrice et conférencière, qui a sorti récemment un livre illustré qui s'adresse aux enfants, aux accompagnateurs, aux enseignants, intervenants et parents, bien sûr. Sophia et les paroles magiques, conte éducatif pour découvrir et gérer les émotions. Je la reçois en deuxième partie d'émission. Mais d'abord, à la fin de l'été, j'ai lancé une commande un peu particulière à Catherine Dallaire-Blanchette, elle qui est fondatrice de On roule au Québec. Je lui ai lancé le défi à savoir, est-ce qu'on peut se créer un petit guide des lieux accessibles en santé? Et puis, ben, elle a répondu, vous connaissez On roule au Québec, hein, qui a comme mission de répertorier, oui, des lieux accessibles, que ce soit autant point de vue de loisirs, la restauration, magasinage. Elle a répondu, présente à l'appel, et je la reçois dans quelques instants. Bonjour Catherine, merci d'être là.
Ça fait plaisir.
On roule au Québec qui, bon, comme je le disais, a pour mission de répertorier les endroits accessibles. C'était pas une mince tâche de répondre à cette commande-là. Merci beaucoup, Catherine. Et bon, je voulais mentionner au départ de cette entrevue-là, de cet entretien qu'on a ensemble, j'anime un show sur la santé depuis quelques mois. Donc, évidemment, quand je vais chez le médecin, quand je vais chez le dentiste, quand je vais chez l'optométriste, j'ai un petit peu plus de sensibilité à ça, à savoir est-ce que c'est accessible pour les gens qui ont, des limitations fonctionnelles ou différents handicaps. Et force est de constater que souvent, ben non, c'est pas accessible. On le sait, les déplacements, ça peut être un défi pour ces gens-là. L'accès aux services, l'accès à des lieux publics, c'est un petit peu pour ça que vous avez fondé On roule au Québec.
Oui, tout à fait. C'est pour faciliter l'accès à l'information sur qu'est-ce qui est accessible et où et comment. Parce qu'il y a le plein accessible, il y a le partiellement accessible et donc dépendamment.
Oui, et justement, on va l'aborder tout de suite. On définit comment un lieu, il paraît que c'est pas facile de définir un lieu accessible.
C'est parce qu'il y a beaucoup de critères. Il y a beaucoup de critères, première des choses. Et deuxièmement, il y a beaucoup de définitions différentes de l'accessibilité. Si on prend l'accessibilité uniquement pour une personne en fauteuil roulant, par exemple, ça va être différent de l'accessibilité pour une personne qui est non-voyante. Ça va être différent aussi de l'accessibilité pour une personne qui a de la misère à s'orienter, donc au niveau de l'accessibilité des informations. La notion d'accessibilité universelle, entre autres, vise à rejoindre toutes ces déficiences-là de façon à faire des endroits qui sont accessibles pour tous. Mais c'est là que ça devient très difficile de dire qu'est-ce qui est accessible, parce que si on va, si je me permets un petit peu dans les extrêmes, ce qui est parfaitement accessible pour une personne non aveugle est tout à fait pas accessible pour quelqu'un en fauteuil roulant, parce qu'une personne aveugle a besoin de trottoir, a besoin d'obstacles pour pouvoir se repérer, alors qu'un fauteuil roulant, c'est totalement l'inverse. Donc, si on va dans les extrêmes, l'handicap visuel et l'handicap physique moteur sont pas compatibles. C'est sûr qu'avec l'accessibilité universelle, on va essayer d'arriver à un compromis où ce que chacun y bénéficie davantage. Quand vient le temps d'évaluer l'accessibilité d'un lieu, c'est là que ça vient compliqué, parce que par quoi qu'on se base? Encore là, l'accessibilité universelle va essayer d'inclure tous les aspects, toutes les déficiences, mais au quotidien, par rapport à On roule, bien, on va être peut-être un peu plus au niveau moteur, au niveau architectural. Autre point, on roule. Quand moi, j'étais en fauteuil, je me suis ramassée dans une situation où ce que, je m'en foutais pas mal de savoir si c'était accessible selon le code
vous
du bâtiment
y alliez.
Et tout.
Oui.
J'avais besoin d'aller aux toilettes.
Oui.
Donc, est-ce que ma chaise passe en porte ou pas? C'était vraiment très pratico-pratique. Et on roule est conçu sur ce concept-là, en ce sens qu'on fait un état des lieux. On dit « voici ce qu'il y a ». La plupart du temps, on s'entend que ce n'est pas selon le code du bâtiment, que ça ne respecte pas les normes, mais voici ce qu'il y a. De façon à ce que les gens qui ont des besoins spécifiques puissent déterminer par eux-mêmes si ça leur convient ou pas. Par exemple, quelqu'un qui a des gros problèmes d'équilibre, donc qui va avoir une déficience de ce côté-là, mm-hmm. va avoir besoin d'une barre d'appui pour aller aux toilettes. Pourtant, c'est quelqu'un qui va se promener debout. Inversement, quand moi, j'étais en fauteuil, j'avais pas besoin de barre d'appui parce que j'étais assez en forme pour faire mon transfert seul. Donc, pour moi, la notion d'une toilette accessible quand j'étais en fauteuil ne nécessitait pas une barre d'appui. Mais quelqu'un qui n'est pas en fauteuil, mais qui a des gros problèmes d'équilibre, pour lui, une toilette accessible, ce sera pas nécessairement d'avoir plus d'espace, mais d'avoir la barre d'appui.
Est-ce que vous lancez cet appel-là aux gens, justement, qui ont des besoins spécifiques, qui vivent avec une limitation fonctionnelle, de vous revenir pour dire « OK, je suis allée à tel endroit, c'est accessible, ça ne l'est pas ». Selon ma condition, pour telle ou telle raison.
Le site est bâti entièrement sur la contribution citoyenne. Donc, le but, c'est que les gens envoient de l'information ou émettent des commentaires, évaluent également les lieux. Donc, ça, j'ai déjà une vingtaine de commentaires de gens qui sont revenus sur des lieux qu'ils avaient visités. Chaque fiche peut être évaluée de 1 à 5. Donc, par exemple, si tout le monde, de façon générale, évalue 5 étoiles, on peut s'attendre à ce que ce soit qu'il soit un lieu
super
soit vraiment accessible pour tous. Si, de façon générale, tout le monde l'évalue 1 étoile sur 5, c'est peut-être à vos risques et périls à 1 heure du matin quand il n'y a vraiment plus d'options.
Oui. Habituellement, on ne va pas chez le médecin ou chez l'optométriste à 1 heure du matin.
Non.
Et c'est vraiment les lieux de santé. Je voulais qu'on aborde ça ensemble aujourd'hui. Catherine, vous vous êtes lancé dans cette aventure-là, à faire cet exercice-là, puis en même temps, c'est disponible également sur Onroule au Québec. Bien sûr, là, c'est peut-être pas partout en région. Comment vous vous êtes pris un petit peu là pour voir quels lieux, les établissements de santé étaient accessibles?
C'est sûr que c'est un défi en soi de répertorier la donnée accessible. Donc, moi, je suis allée un peu à la pêche. Donc, de par les zones professionnelles, envoi de courriel aux gens, est-ce que votre établissement est accessible? Oui, non. S'il est, inscrivez-vous sur le répertoire. Donc, c'était vraiment plus un appel de masse pour que les gens qui ont des cliniques, des services médicaux accessibles répondent. Et je vous dirais que j'ai quand même eu une bonne réponse du milieu médical.
À votre étonnement?
Non, je dirais un 30 % de retour de courriel et sur les 30 % de retour de courriel, peut-être au total un 10-15 là, qui était accessible.
OK.
Mais un 30 % de retour de courriel,
c'est ce qui est déjà bien.
C'est déjà très bien.
Parce qu'habituellement, quand on ne l'est pas accessible, on n'a pas envie de répondre, peut-être.
C'est ça. Et il y a des gens qui me répondaient « Non, je ne suis pas accessible, mais je suis vraiment désolée, je garde votre référence. Peut-être que dans un an, je pense déménager, je vais en tenir compte. » Donc, j'avais des réponses très négatives, genre « Non, je ne suis pas accessible, point.
Mm-hmm. »
Mais j'avais aussi des gens qui savaient qu'ils n'étaient pas accessibles, qui en étaient conscients et c'est qu'il faisait la mention que s'il y avait à déménager, il ferait ça différemment aussi.
Mm-hmm. Est-ce qu'il y a des gens, des professionnels de la santé, donc, qui voudraient bien l'être, mais qui ne savent pas comment?
Plusieurs. Mm-hmm. Je vous dirais, ça, c'est de façon générale. Il y a beaucoup de monde qui sont de plus en plus sensibilisés à ça, mais ils ne savent pas exactement comment le faire. C'est sûr que le principal, c'est de ne pas avoir de marche à l'entrée, mais ensuite, là, il y a des petits éléments qui peuvent être faits rapidement au niveau de la toilette, par exemple, barre d'appui et autres. Là.
Oui.
Au niveau médical, ça peut être d'avoir des tables qui sont hydrauliques, donc des tables qui peuvent s'ajuster à la hauteur de la personne. Ça peut être déjà un bon ajout. C'est sûr que c'est des tables qui ont un coût plus élevé qu'une table, une bonne table en bois de massothérapie, là.
Mm-hmm.
Mais à ce moment-là, ça s'adapte à la personne, donc c'est déjà là un élément d'accessibilité particulier.
Mm-hmm. Puis, bien sûr, c'est pas tout le monde, toutes les institutions qui peuvent avoir un ascenseur, par exemple, il y a des choses qui sont un petit peu plus complexes à installer.
Il y a des choses qui sont plus complexes à installer et si on regarde certaines professions, c'est souvent, par exemple, les psychologues, acupuncteurs, c'est des gens qui vont avoir leur bureau soit chez eux, Il y a plusieurs psychologues qui reçoivent chez eux à domicile. Ou ça va être dans des petits bureaux qui vont être au deuxième ou au troisième étage parce qu'ils n'ont pas besoin de beaucoup d'espace. Et là, quand on parle d'un deuxième, troisième étage, ben malheureusement, c'est pas accessible parce que c'est rare là, que dans des les bâtiments résidentiels à Montréal, on ait des deuxième et troisième étages avec ascenseur.
Ben oui, oui.
Donc, les professions qui ont besoin de petits espaces pour travailler, malheureusement, sont moins accessibles que les plus grands.
Donc, vous avez pu l'observer auprès des massothérapeutes ou des acupuncteurs, par exemple, où c'était peut-être un petit peu plus difficile du point de vue de l'accessibilité?
Psychologue, acupuncteur, massothérapeute, c'est des gens vraiment là, qui vont travailler dans leur bureau à domicile ou vraiment des endroits qui ont des marches. Donc,
j'aurais tendance à penser que les cliniques médicales, par exemple, sont peut-être plus accessibles parce que souvent, dans des édifices qui regroupent peut-être d'autres services, mais également parce que ça s'adresse à des personnes âgées. On sait que personnes âgées ont peut-être des besoins plus spécifiques.
Personnes âgées, besoins plus spécifiques. Aussi, si on parle de la clinique médicale, ben, on parle de plein de types de bobos, donc fractures, choses comme ça, ça peut en faire partie.
Mais...
Donc, effectivement, les cliniques médicales et CLSC, façon de parler, sont en tête de liste en termes d'accessibilité là, et hôpitaux, là, mais en termes de cliniques, oui. Généralement, ils ont des rampes pour la plupart.
Parmi cette pêche-là, est-ce que vous avez une palme à donner de dire, OK, telle institution, tel endroit, vraiment, ils répondent à tous les critères d'accessibilité?
Qui répondent à tous les critères d'accessibilité, je vais être bien honnête, il n'y en a pas beaucoup. Il n'y en a pas beaucoup parce que certains vont être très bons sur certains points, ne seront pas d'autres
plus
sur certains points.
Sur d'autres, ouais.
Je prends l'exemple de la clinique de solutions santé qui est près de la 40 et... mon Dieu, Christophe Colomb. Christophe Colomb 40. Ils ont un stationnement extérieur gratuit avec place réservée. Porte à ouverture automatique et la clinique a rénové ses installations. Donc, les corridors et les portes sont de façon plus générale plus larges. Donc, meilleur accès et sont au premier niveau. Donc, de ce côté-là, très accessible. Par contre, pas de toilettes accessibles.
Ah oui.
Donc, il y a quand même un bel accès, stationnement extérieur gratuit, place réservée, ouverture automatique, tout ça, mais il n'y a
pas
la toilette.
C'est important d'aller à la salle de bain en plus, oui.
C'est important. Donc, côté, si on se dit qu'on a rendez-vous d'une demi-heure, parce que chiro, c'est pas très, très long, ben on peut prévoir aussi à l'avance, étant donné qu'il y a un stationnement, on peut aller en voiture si on a. Une clinique qui est excellente, c'est la Kinatex Jarry, qui, d'ailleurs, elle est reconnue, les massothérapeutes, les professionnels sont reconnus, ils sont autorisés, accrédités, pardon, pour tout ce qui est athlète paraplégique. Donc, eux ont vraiment une expertise au niveau des athlètes paraplégiques et donc on s'entend que toutes leurs installations vont en conséquence là, de cette expertise-là et sont effectivement très sensibilisées à cette réalité-là. Mm-hmm.
Est-ce qu'il y a des régions qui se distinguent davantage, que ce soit du point de vue positif ou plus négatif?
Ça va principalement au niveau architectural. Donc, si on regarde Laval, qui a quand même eu des grands développements récents, à ce moment-là, oui, c'est sûr qu'on va avoir une meilleure accessibilité dans les nouveaux développements que dans les bâtiments qui sont déjà bâtis là, dans certaines régions. La Saint-Denis, je dirais, moi, c'est là je me suis retrouvée à 1 heure du matin. Saint-Denis entre Ontario et Sainte-Catherine, c'est pas évident. Là. Il y a de la marche, mais vraiment partout. Par contre, si on regarde la Sainte-Catherine dans le village gay, on a quand même un très bon taux de commerce sans marche à l'entrée. Et la SDC aussi est très sensibilisée et fait beaucoup d'efforts.
SDC?
Société de développement commercial. Mm-hmm. Donc, quand la rue piétonne arrive l'été, il y a les terrasses qui s'installent et la SDC finance l'ajout de rampes d'accès partout entre les terrasses pour que les gens accèdent au commerce malgré l'installation des terrasses sur les trottoirs. Donc, il y a vraiment un bel effort qui est fait de ce côté-là. La Société de développement commercial, elle est sensible à ça. Elle investit là-dedans et de façon générale, les commerces sont assez... ils n'ont pas beaucoup de marche à l'entrée. Bon, l'accessibilité intérieure au niveau des toilettes, ça encore là, c'est un autre problème, mais extérieur, au moins l'accès est quand même bien, là.
Catherine, avec On roule au Québec, vous vous penchez sur l'accessibilité, là, et je le disais d'entrée de jeu, dans plein de secteurs. Là, aujourd'hui, on parle de santé, mais autant loisirs, beauté, divertissement. Au Québec, là, on se distingue de quelle façon là, sur l'échelle mondiale? Et, ça, c'est une bonne question, je le vois dans vos yeux.
c'est une grande question, et je vous dirais qu'à chaque fois que je parle à quelqu'un, j'ai une réponse différente.
OK. Les gens ont des points de vue différents sur cette question-là.
Oui, il y en a qui vont dire que la France est bien en avance sur le Québec pour certains points, pour entre autres l'accès au commerce. Et il y en a d'autres qui vont dire non, elle est bien en retard parce que oui, tu peux rentrer en commerce, mais c'est pas d'aller aux toilettes.
Mm-hmm.
Donc, ça dépend sur quel point on regarde l'accessibilité. Il y en a d'autres qui vont dire, ouais, mais eux autres, ils ont plein de bâtiments patrimoniaux qui ont été rénovés, mais il y a d'autres nouveaux bâtiments qui ne le sont pas. Donc, c'est très... ça varie beaucoup, je dirais, d'une personne à l'autre. Je sais qu'à Vancouver, ils sont plus en avance au niveau réglementation. Entre autres, ils ont banni les poignées rondes.
Ah oui.
Donc, ça, c'est une réglementation qui a été passée dans la dernière année.
Poignées rondes, plus difficile d'accès, en fait, pour la prise, c'est ça?
C'est ça. Ouais. Tous les gens qui ont des problèmes de pronation, soit qui vont avoir des problèmes avec des petites mains ou des doigts, bon, paralysés, tout ça, quand la poignée est ronde, ça devient beaucoup plus difficile d'ouvrir une porte que si la poignée, elle est plate. Également avec les chiens d'assistance qui vont ouvrir les portes. Les chiens peuvent ouvrir des portes avec des poignées plates, mais ne peuvent pas ouvrir des portes avec des poignées rondes.
On ne pense pas à ça, je veux dire. Évidemment, si on vit avec une limitation fonctionnelle, on a probablement plus la sensibilité, du moins par rapport à notre besoin spécifique, comme on le disait tout à l'heure. Mais quand on n'a pas de difficulté à circuler, à avoir accès aux services, on ne pense pas à tous ces détails-là. Et je comprends là, votre point de vue quand vous dites qu'il y a plein de manières de concevoir l'accessibilité. Oui. Et là, c'est difficile d'avoir un consensus de cette façon-là.
Mon avis, c'est que l'accessibilité est avant toute chose humaine. Donc, parce qu'entre deux personnes qui ont deux handicaps différents, les besoins d'accessibilité vont être différents. Si on prend la même personne qui est en fauteuil manuel régulier, sportif, mécanique, triporteur, la même personne avec le même handicap vient d'avoir des besoins en accessibilité différents. Et si au final, on rajoute la personnalité, là, on vient de tout faire sauter. Moi, une heure du matin, j'ai grimpé une marche avec ma chaise roulante parce que je ne voulais pas avoir à me pisser dessus devant le public. Mm-hmm. Donc, et encore là, il y a des gens qui vont faire des consensus. Bon, aujourd'hui, j'ai vraiment le goût d'aller au restaurant. Fait que moi, je le sais que si je n'ai pas ça, c'est correct, mais aujourd'hui, tu sais. Donc, c'est très personnel dans, pour chacun, c'est quoi l'élément qui est le plus important pour eux en termes d'accessibilité. Prenons juste le siège surélevé de la toilette. J'ai des gens qui m'ont dit très clairement, s'il n'y a pas de siège surélevé, je ne peux pas aller aux toilettes.
Mm-hmm.
Mais il y en a d'autres qui m'ont très clairement dit, s'il y a un siège surélevé, moi, je ne peux pas aller aux toilettes. Donc, est-ce que le siège surélevé est une question... devient accessible ou pas, ça dépend de la personne qui l'utilise.
Donc, c'est impossible de plaire à tous.
C'est, ben, parce que c'est de l'humanité.
Mm.
Donc, tant qu'à moi, oui, c'est impossible. Et de là, l'idée, mon rôle de faire un scan, de faire un état des lieux et de permettre aux gens de décider par eux-mêmes si ça leur convient ou pas.
D'ailleurs, comment quelqu'un qui est à mobilité réduite avec des limitations fonctionnelles peut demander qu'un lieu, que ce soit parce qu'il va chez cette optométrice-là et il veut continuer à y aller, demander à son spécialiste de la santé, est-ce que vous pouvez rendre votre lieu accessible? Ça se demande tout simplement comme ça ou...
Ça se demande tout simplement. En fait, je dirais que la meilleure chose à faire, c'est d'avoir un discours positif et respectueux envers le propriétaire du commerce ou de la clinique parce que souvent, ils font face à des plaintes plus qu'à un discours constructif. Donc, il y a une certaine fermeture d'esprit qui peut se créer juste simplement parce que c'est plus des plaintes qu'on reçoit. Et ça, c'est humainement même dans un couple. Si c'est toujours de la reproche, ben c'est plus difficile à évoluer. Donc, de parler positivement de l'accessibilité, de démontrer qu'il y a même une clientèle qui en a besoin. Donc, c'est un besoin qui va rapporter avec le temps. Ça permet d'approcher la chose différemment. Et donc, le commerçant, au lieu d'être sur ses gardes, va être plus enclin à devenir accessible.
Certainement. Catherine, vous êtes finaliste pour la région de Montréal dans la catégorie individu et ce, pour le prix à part entière qui est remis par l'Office des personnes handicapées et ce, bien sûr, pour le site On roule au Québec. Félicitations pour ça.
Merci beaucoup.
Et en même temps, vous entamez, ben, en fait, ça fait quelque temps déjà, une campagne de financement qui se tiendra jusqu'au 18 décembre. C'est depuis le 1er novembre, donc déjà 25 jours. Le but de cette campagne-là?
Le but, c'est de développer les outils qu'on a déjà pour les améliorer. Le site Internet, faire une nouvelle plateforme qui va être plus automatisée, davantage interactive pour faciliter l'utilisation. Une application mobile aussi pour permettre la géolocalisation, savoir en tout temps qu'est-ce qui est accessible à proximité. Et c'est quand même des coûts qui sont importants. L'accessibilité web, l'accessibilité de la technologie est un coût important. Donc, on part en recherche de financement là, pour développer ces outils-là.
On peut y contribuer de quelle façon?
par carte de crédit ou par chèque. Donc, sur notre site Internet, il y a le lien qui redirige vers la campagne Indiegogo. Donc, c'est possible de faire des dons en ligne. Je sais que certaines personnes n'ont pas accès aux cartes de crédit, des choses comme ça. Donc, c'est toujours possible d'envoyer un chèque également. Toutes les informations sont sur le site Internet.
Le mot-clic, on roule 2014 sur Twitter. L'objectif, 60 000 $. Catherine Dallaire-Blanchette, je vous le souhaite.
Merci.
Plaisir.
Pour rejoindre Marianne Paquette et l'équipe de C'est bon pour la santé, dans la région de Montréal, 514-282-1999, poste 220, et sans frais ailleurs au Québec, 1-800-361-0635, et par courriel à mpaquette@commercialvusezvoix.com. Suivez-nous sur Facebook, / C'est bon pour la santé, et sur Twitter, @commercial_canal_m.
Bonjour Diane Borgia.
Oui, bonjour.
Vous allez bien?
Oui, très bien, merci.
Vous êtes l'auteur de Sophia et les paroles magiques, conte éducatif pour découvrir et gérer les émotions. On le sait, l'apprentissage des émotions chez les tout-petits, c'est incontournable, ça fait partie de leur développement. À quel moment, justement, ça intervient dans le développement des enfants?
Ben, on dit en fait, bon, déjà à la naissance, là, les enfants ressentent des émotions. Exemple, quand ils sont dans une mauvaise posture, dans le sens que s'ils ont la couche mouillée ou ils ont faim, déjà les émotions vont les faire réagir. Mais de façon plus concrète, on dit que les enfants, à partir de l'âge de 2 à 3 ans, sont capables là, d'identifier, du moins identifier les émotions sur le visage de leurs parents, chez les autres, sans nécessairement être capables déjà de les nommer, mais ils sont capables de les identifier.
Donc, à partir de quel âge, en tant que parent ou tout adulte signifiant, on peut commencer à leur nommer des émotions, à leur parler de ça?
Je crois sincèrement qu'on peut déjà commencer à en parler vers 2-3 ans dans le vocabulaire quotidien, donc en étant en interaction avec l'enfant. Mais d'une façon plus particulière, je crois que dès l'âge de 5-6 ans, les enfants ont droit accès davantage pour les aider à nommer les émotions qu'ils ressentent.
Apprendre à nommer les émotions, j'imagine que ça peut éviter au sein du noyau familial pas mal de crises. Est-ce que ça a d'autres fonctions, la gestion des émotions chez l'enfant?
Bien, en fait, ça a une fonction sociale très importante parce qu'un enfant qui est aux prises avec des peurs intenses, la timidité, l'angoisse ou encore de la colère, c'est sûr que ça va affecter définitivement ses comportements. Donc, ses relations sociales peuvent en être affectées. Donc, dès la pré-maternelle, je dirais que l'enfant, déjà dans les centres de petite enfance, on commence déjà à s'intéresser au phénomène des émotions et c'est utile de le faire.
Sophia et les paroles magiques, conte éducatif pour découvrir et gérer les émotions, c'est votre nouvelle publication, Diane Borgia. Vous l'avez écrit dans quel objectif?
Bien, en fait, l'objectif, c'était de fournir un outil concret aux parents, aux éducateurs, aux enseignants, un outil concret pour non seulement découvrir l'ensemble des émotions qui nous habitent, mais aussi d'aider avec cet outil-là, d'apprendre à les gérer. Après les recherches que j'ai faites dans les 10 dernières années, il y a très, très peu de livres de contes qui vont toucher l'ensemble des émotions. Généralement, on peut retrouver des livres qui vont soit vont toucher la peur ou ils vont toucher la tristesse et la joie. Mais rare, en tout cas, à mon avis, ce serait le seul livre de conte qui touche à l'ensemble des émotions, autant positives que négatives.
Oui, parce qu'on y traite du bonheur, du malheur, la colère, le découragement, le mépris, la culpabilité, la dévalorisation. Et ce, dans le cadre de petites histoires où Sophia, son frère sont interpellés, sont touchés, leurs amis aussi et leurs parents, bien sûr. Et ils apprennent par des petites phrases magiques à nommer leurs émotions. Je m'adresse à vous, bien sûr, mais à travers les parents, afin de mieux utiliser ce livre-là, là, quelle est la meilleure méthode?
Bien, je pense que c'est de se donner du temps avec l'enfant pour, un, lire les histoires et par la suite d'aider l'enfant justement à utiliser les paroles magiques qui ont un pouvoir réel là, de faire diminuer l'intensité des émotions négatives qui sont traitées dans ce livre de contes. Si on prend entre autres, on prend la colère qui est dans un des contes où on élabore que le jeune garçon est en colère parce qu'il n'a pas ce qu'il veut.
Le petit camion vert.
effectivement. Donc, le patou en question, le petit héros, il se fâche, il fait une crise et il est très en colère. Et c'est là que sa petite sœur lui enseigne que s'il récite la parole magique, je n'aime pas ça, mais c'est comme ça. Mm-hmm. Et ça a le pouvoir effectif de diminuer l'intensité. C'est bon pour les adultes aussi, hein, parce que face à une situation qu'on n'apprécie pas, on a tendance, hein, quand ça ne rencontre pas nos désirs, on a tendance à se mettre en colère.
Mais c'est vrai, Diane Borgian, que votre livre, pour l'avoir lu, j'ai l'impression qu'il pouvait s'adresser autant aux adultes parce que ce sont des phrases qu'on peut, toutes simples, hein, qu'on peut appliquer dans notre quotidien et qui sont comme un mantra parce qu'elles sont simples, ça s'installe bien là, dans notre cerveau. Là.
Absolument. Et c'est dans cette simplicité-là que je voulais justement profiter de la simplicité pour enseigner aux jeunes enfants. Mais ce n'est pas parce que ces paroles dites magiques sont simples qu'elles ne sont pas pour autant réalistes. Mm-hmm. Parce que je dois dire que ce livre est basé sur une approche psychothérapeutique qui est très, très, qui a été évaluée, qui est qui a une valeur inestimable au niveau de la théorie, mais aussi au niveau de la pratique. Donc, moi, ça fait 30 ans que je fais de la clinique, que mm-hmm. je reçois des parents, des enfants, des adolescents. Et effectivement, l'approche qui est utilisée, c'est une approche de gestion des émotions en changeant nos cognitions, nos pensées ou notre regard sur les situations. Mm-hmm. Donc, pour simplifier pour les enfants avec les années dont j'ai travaillé plus particulièrement avec eux, ben c'est là qu'est venue l'idée de simplifier au maximum et d'aller avec une phrase réaliste. Mais des enfants, j'avais appelé ça des paroles réalistes. Ça aurait eu
et ça devient magique pour les enfants. C'est vrai que ça peut être plus invitant, Diane Borgia. Je rappelle, je nomme votre site web www.dianeborgia.com pour en savoir davantage. Je rappelle le titre de votre livre, Sophia et les paroles magiques, conte éducatif pour découvrir et gérer les émotions. C'est disponible aux éditions Nouvelle Lumière et vous êtes criminologue, psychothérapeute, clinicienne, formatrice et conférencière. Merci beaucoup. Ça a été un plaisir de vous parler aujourd'hui.
Au plaisir.
Au revoir.
Au revoir.
Merci Jean-Sébastien Laliberté à la mise en onde. On se retrouve demain. Portez-vous bien d'ici là. Bye bye.